éviter une censure annoncée.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. Il est bientôt 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour, chers auditeurs. Prononcer aujourd'hui le nom de Gaël Faye, c'est l'associer à son œuvre magistrale Petit Pays, paru en 2016 et couronné de prix littéraires, mais aussi au plus récent prix Renaudot pour le roman Jacaranda. Aujourd'hui, ce sont les pages de cet ouvrage que nous vous présentons. Une invitation à percer les silences du Rwanda en rendant la parole aux disparus du génocide. Pour présenter Jacaranda, nous avons choisi trois dates importantes que l'auteur met en exergue. 1994, 1998 et 2005.
Nahinzi biraye zikonze amatoni nate yurutoki zikonza somagatobe iminsi ramhinduka ibyo nejeje nishavu ayi nimwumve iryo ngushije
La guerre. J'ignore pourquoi j'ai répondu la guerre quand Sophie, la déléguée qui préparait ma défense au conseil de classe, m'a demandé pour quelle raison mes résultats du dernier trimestre étaient si catastrophiques. Elle a insisté. La guerre ? J'ai répété, oui, la guerre. Je n'allais quand même pas avouer que je n'avais rien foutu, que j'étais un tir au flanc qui passait son temps à rêvasser et à écouter du rock. Il fallait trouver une explication convaincante, impossible à vérifier, et qui puisse émouvoir le conseil de classe. J'aurais pu prendre l'excuse de la maladie grave, du cancer ou de l'insuffisance cardiaque, mais il aurait fallu fournir des justificatifs médicaux. Ou raconter que mes parents s'étaient récemment séparés. Mais c'était le cas de la moitié des élèves du Bahut, et ça ne les empêchait pas d'avoir des notes convenables. Alors, sans trop réfléchir, j'ai dit que c'était à cause de la guerre dans le pays de ma mère. Je n'en revenais pas d'inventer un mensonge pareil. Mais plus j'y pensais, et plus je trouvais cette histoire crédible. Aux infos, on parlait de ce conflit depuis des semaines, avec des images choquantes qui hantaient l'esprit. Même s'il s'agissait d'événements lointains dans un pays inconnu, tout le monde, à ce moment-là, voyait à peu près de quoi il retournait. J'ai sorti le grand jeu, j'ai tout inventé. Les atrocités de la guerre, le chagrin de ma mère, les cauchemars de mon père, ma difficulté à me concentrer et à étudier sereinement. J'ai su que mon mensonge fonctionnait parce que Sophie m'écoutait les larmes aux yeux. Lors du conseil de classe, elle a si bien plaidé ma cause, reprenant avec émotion mes arguments, que les enseignants bouleversés ont décidé d'attendre avant de statuer sur mon sort. Je n'avais pas imaginé que le collège convoquerait mes parents. J'étais pris à mon propre piège. Dans le bureau du directeur, assis entre mon père et ma mère, la tête baissée, pendant que le professeur principal relisait à voix haute les propos de la déléguée, je fixais mon pied qui s'agitait frénétiquement sous la table. En sortant du rendez-vous, alors que nous étions encore dans l'enceinte du collège, mon père m'a passé un savon humiliant devant un groupe d'élèves hilares. Mais le plus dur à encaisser a été le silence de ma mère, son silence de toujours. Elle s'est contentée de me dévisager durant d'interminables secondes. Un regard plein de mépris qui m'a donné envie de disparaître à jamais. Durant plusieurs jours, elle ne m'a pas adressé la parole. Mon bulletin est arrivé la semaine suivante. Dans la case « Observation », le principal avait écrit un cinglant « Quand le mensonge fait surface, la confiance coule ». Sans surprise, je redoublais ma sixième. C'est ce printemps-là que le Rwanda s'était invité dans nos vies pour la première fois. Ma mère n'en avait jamais parlé. Pour elle, son existence avait commencé en 1973, lors de son arrivée en France. Elle ne faisait pas d'allusion à sa famille, ne disait rien de son enfance, ne possédait aucune photo de sa jeunesse là-bas. Petit, j'avais certainement dû lui demander où se trouvait son pays, ses parents, mes grands-parents, que je ne connaissais pas. Je ne me souviens plus de ses réponses. Le passé de ma mère était une porte close. D'ailleurs, elle n'écoutait pas de musique rwandaise, ne cuisinait pas de plats de là-bas et ne m'avait jamais chanté de berceuse dans sa langue maternelle. Chez nous, pas le moindre objet exotique et aucune connaissance rwandaise ne venait jamais nous rendre visite. Dans mon esprit, nous étions une famille française, banale. Bien sûr, ma mère ne pouvait pas dissimuler sa couleur de peau et il arrivait régulièrement que des questions insistantes, des réflexions anodines ou des sous-entendus tendancieux la renvoient à ce pays lointain qu'elle n'évoquait ni ne revendiquait. Mais elle ne relevait pas. C'était anecdotique. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendue une seule fois se plaindre de sa condition ou dénoncer à quelconque racisme. Ce qui surprenait le plus, c'était son français sans accent. Les gens s'en étonnaient, la félicitaient quand ils apprenaient qu'elle n'était pas née ici. La seule faute qui lui arrivait parfois de commettre était une étrange confusion entre le masculin et le féminin, ou, quand elle était fatiguée, les « L » prononcés en « R ». Mon père affirmait que leur différence de peau n'avait jamais été une question pour lui. « L'amour n'a pas de couleur », répétait-il souvent. Il disait ça fièrement, proclamant ne pas voir celle de ma mère. Comme elle taisait totalement ses origines, j'en arrivais presque à oublier qu'elle était née et avait grandi sous d'autres cieux. Si bien que lorsque je la surprenais en train de parler Kinyarwanda lors d'une conversation téléphonique et l'entendais s'exprimer couramment dans cette langue inconnue, je m'arrêtais stupéfait. Je n'ai jamais su avec qui elle conversait. Quand je l'interrogeais, elle restait évasive, parlait de vieilles connaissances ou de sa lointaine famille à Bruxelles. Je profitais de ses appels pour les pieds, ses attitudes, les inflexions de sa voix, le maintien de son corps jusqu'au battement de ses mains en l'air en faisait une autre personne et lui conférait une aura mystérieuse qui me troublait profondément. Je l'observais dans cette incarnation nouvelle et une sensation fugace et désagréable me parcourait. Celle de ne rien savoir de cette personne avec qui je vivais depuis toujours. Le terrible sentiment de ne pas connaître cette femme, ma propre mère. Le Rwanda est arrivé dans ma vie par la télévision, que nous regardions religieusement à l'heure du dîner. La première fois que le présentateur en avait parlé, je m'étais tournée instinctivement vers ma mère, tout excitée, presque content qu'il soit enfin question de son pays natal au journal télévisé. Mais elle n'avait pas réagi, complètement absorbée par les images qui défilaient à l'écran. Voyant ma fébrilité, mon père m'avait lancé un regard gêné et dissuasif. À la fin de l'émission, j'avais attendu de la part de ma mère une réaction qui n'était pas venue. Cette scène se répéta quasiment chaque soir. Des mois durant, un magma d'images de mort, de violence et d'exode s'est déversé dans nos assiettes. Avant la diffusion, le présentateur prenait le soin d'avertir que certains contenus étaient susceptibles de heurter la sensibilité des téléspectateurs. Nous restions ensuite silencieux, nos regards fixant l'écran, nos fourchettes suspendues, figées comme des statues devant le spectacle de cette barbarie lointaine. Puis, le présentateur réapparaissait pour annoncer un autre reportage. Un ange passait avant que les choses ne reprennent leur cours normal. Mon père se versait un verre de vin. Ma mère poivrait énergiquement sa purée de pommes de terre. Je peinais à découper mon steak et à chasser les scènes d'horreur qui venaient de me caramboler. Chez nous, la sensibilité du téléspectateur était avalée comme une bouchée de silence, ce qui finissait par m'infliger de terribles maux de ventre. Je me revois, couché en boule sur mon lit pendant des heures, la sueur au front, mes avant-bras pressant mes boyaux douloureux, espérant que la brûlure se taise. Je me revois dans ma chambre, en fin d'après-midi, fixant une ombre évanescente sur un mur de la pièce, et l'ombre qui évolue, tremblote, se métamorphose, puis disparaît au rythme de la course du soleil et du surgissement de la nuit. Je me revois, prostré des heures durant, avec ce sentiment inexplicable qu'il me faut être patient, que la vie me destine à une chose que j'ignore encore, et que la contrepartie de cette chose inconnue est l'attente, une longue attente, sereine et acharnée.
Un mois plus tard, j'étais assis à côté de ma mère dans un avion qui atterrissait sur le tarmac de l'aéroport de Kigali, la capitale du Rwanda. Nous étions en juillet 1998. Le taxi traversait une ville ocre, au paysage grillé par la saison sèche, troué ici et là par de verts bosquets. Sur la chaussée pleine de fondrières, le véhicule brinque-ballait, les roues soulevaient une latérite aérienne et suffocante qui se répandait en un brouillard de poussière sur les malheureux piétons, les façades des bâtiments et la végétation environnante. Partout où le regard se posait, la ville se déployait en courbes délicates, ondulées en collines et en vallées. Ma mère, silencieuse, regardait par la fenêtre. 25 ans qu'elle n'était pas revenue dans son pays. À quoi pensait-elle? Depuis notre départ, on ne s'était quasiment pas adressé la parole. Au lieu de la réjouir, ma décision de dernière minute de l'accompagner au Rwanda l'avait contrariée et je n'osais poser aucune question. Je ne savais rien de ce qu'elle avait prévu de faire ici, ni chez qui nous allions loger. La seule chose qu'elle m'avait dite à l'atterrissage était de ne pas me comporter en enfant gâté pendant ce séjour. Le taxi s'était garé devant un petit portail criblé de rouille, dans un quartier qui me parut populeux et misérable. Des rigoles d'eau sale coulaient entre les maisons aux toits de tôle. Des sacs plastiques traînaient dans les caniveaux et sur les pistes de terre battue. Une fine pellicule de poussière rouge s'était déposée partout. Une femme âgée est venue à notre rencontre. Longue robe, épaisses lunettes de vue, coupe de cheveux stricts et aux reflets huileux qui lui donnaient l'air sévère. Elle et ma mère se sont longuement embrassées, poitrine contre poitrine, se palpant les bras et le dos tout en annonçant une litanie de salutations en Kinyarwanda. La femme s'est ensuite tournée vers moi, a fait une pause pour m'observer des pieds à la tête. Des larmes sont montées très discrètement dans ses yeux, derrière ses verres à double foyer. Puis elle m'a embrassée encore plus longuement, en répétant mon prénom et en récitant de nouvelles formules que je ne comprenais pas, évidemment. Je demeurais interdit face à cette étreinte appuyée. Ma mère a dit « Milan, je te présente mamie, c'est ma mère ». C'était tellement brutal et invraisemblable que l'information a mis du temps à parvenir jusqu'à mon cerveau. Nous étions déjà dans la petite maison de mamie quand j'ai compris qu'il s'agissait de ma grand-mère. Ma mère ne m'avait jamais parlé d'elle et j'étais anesthésiée de la découvrir aussi subitement. Une jeune fille, employée de maison, est venue prendre nos valises pendant que nous nous installions au salon. Dans la pièce exiguë, je me suis assis dans un fauteuil en face de ma grand-mère. Elle me fixait avec étonnement, une main recouvrant sa bouche, tout en faisant un petit bruit de gorge semblable au démarrage d'un moteur. Plongée dans l'inconnu, je ne savais pas comment me tenir et me comporter. Pour la première fois, j'éprouvais soudain le trouble des origines. J'étais porteur d'un mystère, d'une filiation aux mille ramifications que cette petite femme si éloignée de moi incarnait comme une évidence nouvelle. Après ces instants de découverte et d'observation réciproque, mamie m'a parlé en français à ma grande surprise. « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» Elle me vouvoyait. « De l'eau, s'il vous plaît » ai-je répondu après m'être éclairci la gorge en adoptant le ton d'un enfant sage. Ma grand-mère a dit quelques mots rapides à ma mère en Kinyarwanda. « Mamie aimerait que tu prennes un Fanta ou un Coca », a expliqué ma mère. Puis elle a ajouté, comme si elle me parlait en aparté, « C'est plus poli ». « D'accord, un Coca alors », ai-je demandé, sans bien comprendre en quoi cela pouvait être plus poli. Ma grand-mère a souri, satisfaite, puis elle a appelé la jeune employée de maison. « Joséphine !» La fille est arrivée aussitôt, ses sandales raclant le ciment. Mamie lui a passé commande avant de lui remettre quelques billets sortis de son soutien-gorge et de l'envoyer acheter les boissons. Pendant que mamie et ma mère discutaient calmement en Kinyarwanda, comme si elles s'étaient vues la veille, j'observais le salon, pièce sombre, aux minuscules fenêtres parées d'épais barreaux de fer. Au plafond bas et aux murs nus, à l'exception de quelques images pieuses. La sensation d'exiguïté était renforcée par la présence de gros meubles en bois. Une table entourée de chaises dépareillées, un vaisselier dont quelques vitres étaient brisées, trois fauteuils vétustes en simili-cuir et un canapé recouvert d'un film plastique. Nous étions en fin d'après-midi et dehors la lumière déclinait rapidement. Réunis après un quart de siècle, la mère et la fille continuaient de discuter à mi-voix. Je vivais en dehors de leur espace de communication. Elles se parlaient avec des voix monotones et leur échange était ponctué d'interjections faites de « hum » et « yo » comme des signes de politesse ou d'approbation qui semblaient vouloir dire « je t'écoute, je suis là, poursuis ton histoire ». Je retrouvais chez mamie la même retenue que chez ma mère, une forme de contenance maîtrisée proche de la rigidité. La jeune fille est revenue, a décapsulé les bouteilles une à une, un coca et deux Fanta orange. La nuit est brusquement tombée. Nous étions à présent dans le noir. Joséphine a apporté une lampe à pétrole qu'elle a déposée sur la table basse. Elle faisait des allers-retours incessants, venant chercher des ustensiles de cuisine dans le vaisselier, sous le regard autoritaire de ma grand-mère. Dans la cour que j'apercevais depuis ma place, je pouvais l'observer s'activer autour de quelques casseroles qui cuisaient sur du charbon ardent. Lorsque j'ai demandé à aller aux toilettes, ma grand-mère a de nouveau appelé Joséphine pour qu'elle m'indique le chemin. J'ai suivi la jeune fille et elle a pointé du doigt une porte en tôle au fond de la cour qui se fermait de l'intérieur à l'aide d'un clou pivotant. En entrant, une forte odeur d'excréments et d'urine m'a attaqué les narines. Dans la pièce éclairée faiblement par une bougie posée dans un renfoncement du mur, j'ai tout de suite repéré des cafards et les grosses mouches autour du trou répugnant qu'observaient des geckos immobiles au plafond. Perdu, je me demandais tout à coup ce que je faisais ici dans cette pièce pestilentielle. Tout me bloquait. L'odeur nauséabonde, les insectes dans la pénombre, la texture humide et imprécise des murs, du sol au plafond. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des exclamations et une voix d'homme en provenance du salon. Toujours concentré, respirant par la bouche pour ne pas inhaler les miasmes aux exhalations écœurantes qui pénétraient malgré tout ma gorge et mes poumons, j'ai éprouvé un haut-le-cœur si puissant que j'ai dû mettre la main devant ma bouche pour éviter de vomir. Alors, j'ai renoncé. Je pouvais encore attendre après tout. J'ai refermé ma braguette à la hâte pour m'échapper de cet endroit à jamais.
Singhamenye cyankinga ndupanze umushinga antunguza ubutumire naguye igihumure nywa amazi ntibyashira ihorere
Yeah.
2005. Il pleuvait sur Kigali quand l'avion a atterri. Dans la foule compacte, j'ai aperçu Claude et nous nous sommes fixés un instant avant de nous étreindre vigoureusement. Pendant toutes ces années, j'avais tant bien que mal gardé le contact avec lui, me débrouillant pour l'appeler depuis les taxiphones de Barbès et de la gare du Nord. Souvent, c'était bref, les appels internationaux coûtaient très cher, et puis nous étions timides au téléphone, n'échangeions pas grand-chose, que des platitudes et des banalités. Un peu par hasard, j'avais appris qu'allait avoir lieu le procès des assassins de sa famille. Alors mon idée avait germé. J'avais saisi le prétexte du mémoire pour justifier mon voyage et ma démarche. En réalité, je voulais être auprès de Claude dans cette épreuve, car je savais qu'il serait seul. Ni ma mère ni mamie n'étaient au courant, et ils ne voulaient pas que je leur en parle. Il était brouillé avec mamie, je ne savais pas pourquoi, et il était resté assez distant de ma mère. Elle m'avait découragé d'appeler Eusébie pour loger chez elle, et je ne me voyais pas aller seule à l'hôtel. Claude, qui vivait maintenant au palais avec Sartre, avait proposé de m'héberger et j'avais accepté sans hésiter, tant je gardais un souvenir mémorable de ce temple de livres, de musique et de fêtes braillardes. Dans le hall de l'aéroport, en attendant que la pluie cesse, Claude songeur a fini par dire « Nous ne sommes plus des enfants, j'ai l'impression. » « Oui, 7 ans, c'est pas rien, ai-je bafouillé. Tu ne vas pas reconnaître Kigali, ça construit partout. » Et le palais ? De ce côté, rien n'a bougé. C'est encore plus bordélique qu'à l'époque. Tu m'as manqué en tout cas, ai-je lâché en le poussant de l'épaule. Je suis heureux que tu sois là. Comment tu te sens à quelques jours du procès? Tu sais, j'attends ça depuis 10 ans. J'espère simplement que je trouverai la force de témoigner. Ce sera la première fois. La pluie avait cessé. Sur le parking, j'ai respiré à plein nez la fraîcheur de la nuit, son odeur d'humus tropical et de terre mouillée. Une pensée m'a fait tressaillir. Je revenais ici sans ma mère. À cet instant, cela m'a paru insensé. Quand nous avons dépassé la dernière voiture, je me suis arrêtée devant la vieille moto déglinguée de Claude. « Tu es venu me chercher avec ce machin ?»« Ouais, c'est mon nouveau job. Je ne bosse plus dans l'agence d'assurance. » Le patron était un Rwandais d'Ouganda qui n'aimait pas les rescapés. Alors j'ai démissionné et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Je suis taxi-moto maintenant. Et où est-ce que je mets ma valise de 30 kilos là-dessus? On a traversé Kigali sur l'engin pétaradant, la valise en équilibre entre Claude et moi. La pluie avait repris de plus belle, nous fouettant le visage. J'étais trempée jusqu'aux os, mais je sentais la vie bouillir en moi, là, derrière Claude. J'ai reconnu Nyamirambo dès que nous avons pénétré dans le quartier. La grande route, la piste criblée de nids de poules, et enfin la petite allée boueuse qui menait au palais. Claude, plein phare, accélérait sur les flaques de boue dans un fabuleux jeu d'équilibriste. Il a annoncé notre arrivée par des coups de klaxon. Dans la cour du palais, un comité d'accueil impressionnant nous attendait, excités et joyeux. Sartre et tous les enfants des rues, devenus adolescents ou jeunes adultes, se tenaient sous le grand avocatier avec une banderole « Bienvenue Milan » et une chanson de Queen qui faisait trembler les enceintes. J'étais émue aux larmes. Être accueilli de cette façon, c'était se sentir immédiatement chez soi. Chacun est venu m'embrasser chaleureusement. Il y avait de nouveaux visages, surtout des femmes et des jeunes filles. Sartre exalté m'a soulevé de terre. « Bienvenue au palais, petit frère, tu nous as manqué !» La cour était encore plus congestionnée et chaotique que dans mes souvenirs. Il y avait maintenant des familles. Certains maïs-bobo étaient devenus parents. Claude et Sartre logeaient dans la même pièce encombrée de livres et de vinyles. « Tu dormiras là !» a annoncé Claude, en me montrant un matelas miteux, étendu au milieu d'un indescriptible désordre. Et moi, j'irai ailleurs. J'ai une petite amie en ce moment, pas très loin d'ici. Tu es sûr ? Ai-je demandé. Un peu déçu et pas totalement rassuré de devoir rester sans lui, quand Sartre a déboulé dans la pièce en dansant, surexcité et déjà pompette. « Ramenez-vous les gars, il ne pleut plus !»« Attends, j'ai des cadeaux pour vous !» Ils ont aussitôt ouvert les paquets. « Un téléphone portable !» a crié Claude. « Mais tu es fou !» Il a un grand écran couleur, j'ai précisé en pointant du doigt la photo sur la boîte. « Monsieur est ministre maintenant ?» a plaisanté Sartre. Claude m'a pris dans ses bras, puis s'est tourné vers Sartre. « Et toi, qu'est-ce que tu as eu ?»« Les œuvres romanesques de Jean-Paul Sartre en Pléiade », a dit Sartre en me serrant la main très solennellement. « J'ai aussi ramené ça, 2 bouteilles de Bordeaux. » Cette fois-ci, Sartre m'a sauté dessus et nous a poussés dans la cour pour continuer la fête avec les voisins. avec un festin de roi et une soirée de sueur, d'alcool et de musique tonitruante, je me suis éclipsée à minuit passé, fourbue, et me suis écroulée d'un bloc sur ma paillasse. J'ai été réveillée 2 heures plus tard, attaquée par le vol en escadrille de moustiques assoiffés de sang frais. Lorsque j'ai ouvert les yeux, Sartre copulait avec une jeune femme, s'agitant frénétiquement au-dessus d'elle comme un chien lubrique, alors que dehors la fête battait toujours son plein. J'ai détourné le regard et me suis aperçue que ma valise avait disparu. J'ai bondi sur mes pieds et Sartre, surpris, a envoyé la fille valdinguer dans le décor. « Ma valise, où est ma valise ?» J'ai hurlé à cause du volume de la musique et de ma montée de stress. « Quoi, quoi ?» dit Sartre, les deux mains cachant ses parties intimes pendant que la fille récupérait un pagne pour se couvrir. Il a enfilé un slip à la hâte et s'est précipité dans la cour où la musique s'est arrêtée brusquement. En quinoa Rwanda, il a réclamé que l'on retrouve ma valise. Tout le monde semblait hagard, défoncé par la fumette et l'alcool, plus disposé à se coucher qu'à retrouver les affaires du jeune blanc. Quelqu'un est allé chercher Claude, mais ne l'a pas trouvé. Je dressais un rapide inventaire mental, mes cours, mes livres de droit et de l'histoire du Rwanda, mes habits, ma trousse de toilette, des cadeaux pour Stella et Eusebie. Heureusement, mon passeport, le visa et mon argent étaient sur moi, dans la poche de ma veste. Le lendemain, la valise a réapparu, posée sous l'avocatier. Après inspection, tout était là. Seul le cadeau de Stella, une boîte de chocolat de 16 assortiments différents, avait été ouvert. Le voleur en avait goûté un de chaque avant de soigneusement refermer la boîte. Après les émotions de la nuit, je n'avais qu'une hâte, aller me promener dans Nyamirambo. Le palais était tellement plein de monde qu'il fallait faire la queue pour se rendre aux latrines et se doucher. Claude n'était toujours pas là. Et je savais que Sartre, qui s'était couché au petit matin, ne se réveillerait pas avant l'après-midi. Il fallait que je change mes euros. Je me souvenais vaguement du chemin de chez Papy, le cousin d'Alfred, le militaire qui rêvait d'être acteur de théâtre. Après m'être perdu, 2, 3 fois, j'ai reconnu les barreaux de la terrasse. Une grosse dame à la porte m'a regardé d'un air étonné quand je lui ai dit que je cherchais Papy. Papy est à Lubumbashi, parti au Congo. Alors j'ai demandé à Alfred. Je ne connais pas Alfred. Finalement, j'ai pu changer mes euros sur le boulevard et dans un café tenu par un Burundais plongé dans un livre de sociologue, Émile Durkheim, j'ai pris un thé chai, bien épicé, avec des beignets. Requinqué, j'ai décidé d'aller rendre visite à Eusebie. Au bout d'une heure de marche, à me perdre cette fois dans les rues paisibles de Kiyovu, j'ai reconnu la maison grâce au jaracanda aux fleurs violettes dans le jardin. J'ai frappé au portail, mais personne n'est venu. En entrant dans la parcelle, j'ai entendu une voix fluette au-dessus de moi. « Bonjour !» Une petite fille aux yeux clairs me regardait depuis une branche de grand arbre. « Comment t'appelles-tu »« Milan. »« Enchantée, Milan. Moi, je m'appelle Stella. »
Jour de procès. Le tribunal Gakaka se tenait dans une clairière à l'herbe grasse, plantée d'eucalyptus, tout au bord de la route asphaltée, à 15 km de Kigali. Le public, venu des collines alentour, était assis sur le gazon, une centaine de personnes, des femmes surtout. Certaines allaitant leurs enfants, abrités du soleil sous de grands parapluies multicolores. La scène était champêtre, le paysage idyllique. Face à l'assemblée, une table centrale où devaient siéger les juges. À droite, le banc des plaignants sur lequel Claude était seul, concentré, les yeux fermés pour éviter le regard des deux prévenus qui lui faisaient face. Sartre et moi étions au premier rang parmi les villageois. Lorsque les 7 juges apparurent, 2 femmes et 5 hommes, tout le monde se leva. Les juges étaient de simples citoyens, des habitants des collines environnantes, élus par la population locale. Sans être des professionnels, ils représentaient l'autorité déléguée par l'État et ils ouvrirent la séance par une minute de silence en mémoire des victimes du génocide. L'instant était solennel. Ensuite, ils rappelèrent quelques règles de fonctionnement, firent la lecture de l'acte d'accusation, avant de donner la parole aux plaignants. Alors
Claude Selon.